question d'un mec sur la planète. Combien de personnes sommes-nous à être indignés par ce massacre? Combien? Combien sommes-nous à dire non à ces massacres? Combien sommes-nous à voir qu'ils attendent leur sacre? Combien sommes-nous à constater le simulacre? Ils nous parlent de paix, mais je crois qu'ils simulent l'acte. Bombardement ciblé, pilonnage et meurtre. Des mecs comme Finkielkraut, même pas ça les heurte. Quatre membres sur la plage, des chics, des parano plus. Étaient-ils terroristes? Ils en payent un lourd tribut. Quand tu bombardes un hôpital, qu'est-ce que tu cherches? Avec ta mitraillette, c'est tout ce que tu perces. Des corps d'enfants, des corps de femmes, des corps d'hommes. La banque de Gaza est la dernière arène de Rome. Ne me sors pas tes arguments, aucun tient la route. Faut déstocker les munitions pour éviter la banqueroute. Un jour notre rêve sera réel. Demande-toi pourquoi y'a aucune manif pour soutenir Israël. Combien sommes-nous à dire non à l'hécatombe? Combien sommes-nous à rechercher la colombe? Combien sommes-nous à dire fuck au garde à vous? Combien sommes-nous? Levez-vous, levez-vous. Combien sommes-nous à dire non à l'hécatombe? Combien sommes-nous à rechercher la colombe? Combien sommes-nous à dire fuck au garde à vous? Combien sommes-nous? Levez-vous, levez-vous. Est-il utile de revenir sur l'histoire? 60 ans que des colons extrémistes sont au pouvoir. C'est la première fois que l'ONU ne condamne qu'avec des mots. C'est pas un rodéo, c'est des familles, pas des troupeaux. Pas des manches merdes, pas des carnivores. Valser Hollande, ouvrez les yeux, Gaza est garni de mort. Comment tu peux soutenir ça? On n'est pas loin d'un génocide et tu m'interdis de crier. Et ça, ça me gêne aussi. Toute la planète hurle, mais tu veux faire taire Paris. Comment tu veux que je me teste face à la barbarie? La paix et la vérité, je les aime éperdument. Toi, t'es à court d'arguments, donc c'est logique, tu mens. Que ceux qui nous disent antisémites restent décents au nom des chrétiens juifs musulmans qui marchent ensemble à Caen. La révolte intérieure du peuple israélien. Le prochain qui serre la main à Hollande sera mesquin. Combien sommes-nous à dire non à l'hécatombe? Combien sommes-nous à rechercher la colombe? Combien sommes-nous à dire fuck au garde à vous? Combien sommes-nous? Levez-vous, levez-vous. Combien sommes-nous à dire non à l'hécatombe? Combien sommes-nous à rechercher la colombe? Combien sommes-nous à dire fuck au garde à vous? Combien sommes-nous? Levez-vous, levez-vous. Français, levez-vous, levez-vous. Palestiniens, levez-vous, levez-vous. Israéliens, levez-vous, levez-vous. De partout, levez-vous, levez-vous. Gaza, Rafa, Hébron, Jenin, Jéricho, Ramallah, Bethléem, Naplouse et toutes les villes. En Palestine, en toute sa grandeur, peuple opprimé depuis des années. Gaza, la France te soutient, Paris avec toi.
How many people do we really stand for something?
S'il te plaît, monsieur le maire, reprends-moi cette foutue carte. Histoire qu'on m'expulse, voyage gratuit car il faut que je parte. La 40 n'est pas loin, l'égalité sur une pancarte. L'an 40 n'est pas loin, moi je galère pour un appart. À croire qu'un bac une noircie, souvent on m'écarte. Ils veulent une France blanche, on est très loin du pop art. Les droits de l'homme sont inutiles, c'est quoi la nouvelle charte? Dès qu'on se défend, c'est chez les extrêmes qu'on nous encarte. Je reste à une condition, rester enfermé, les yeux fermés, les oreilles bouchées, la bouche cousue, mon quartier cerné. Sinon je vais tirer faire des trucs de malade. Même si j'ai pas la dimension d'un barbare, le pôle qu'on nous balade. S'il te plaît, retire-moi cette nationalité. Il se passe des choses immondes, dont personne dans cette nationalité. J'en ai trop marre d'être français, j'en peux plus, sérieux. Pour échapper au split, il faut faire des sauts périlleux. Français xénophobe, d'après un triste sondage. J'insulte ma femme et mon gosse, c'est un triple comptage. Dans vos mairies, vous mettez les ennemis dans vos comptages. Mettez plutôt les classes sociales, ça fera moins d'otages. Pour accepter d'être français, je dois changer de personnalité. Je pars où je m'enferme, où je fais une chance dans personnalité. Pour m'intégrer à la masse, j'en pense à la banlieue. L'islam, les noirs, les arabes, les ennemis, c'est les femmes. Pour accepter d'être français, je dois changer de personnalité. Je pars où je m'enferme, où je fais une chance dans personnalité. Pour m'intégrer à la masse, j'en pense à la banlieue. L'islam, les noirs, les arabes, les ennemis, c'est les femmes.
On se sent pas non plus en sécurité ici, quoi, quand on voit les violences qu'il y a eu à la Courneuve par la police.
Oui, mais enfin bon. Vous irez dans un autre pays, choisissez la Suisse, hein,
Ah, la Suisse, il y a moins de violence policière en Suisse.
Ah, j'en sais rien, je sais pas du tout, moi. Aucune idée, hein, ça c'est à vous de voir, hein, monsieur.
Monsieur le maire, monsieur le préfet, de mon honneur, je suis défait. Dans ta nationalité, rien à foutre dans les défaits. Vous parlez de vos impressions, moi je vous parle des faits. Feu condamné de raciste, toujours en poste en effet. En France, pas de mariage sans avoir divorcé. De quelle polygamie tu me parles? Celle de ta femme trompée. Bon, elle de croire qu'on est tous deux. Trop de pauvreté et c'est elle que femme dans tout occupe. Croire à votre propagande, c'est un égarement. Putain, c'est la France qui volait intégralement. Immédiatiste et cas isolé pour
cacher leur défaite. Y'a plus de fric dans ce pays, ça les empêche pas de faire des fêtes. Ils veulent juste sauver leur zèle. Les frères et sœurs dans le dehors, eux ils te parlent de fermer un coup de halal. Les flics ont traîné un bébé au sol, peu de chance j'en ai volté. A partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus français. Je serai à nouveau français quand vous sortirez de votre sommeil. Pour accepter d'être français, je dois changer de personnalité. Je pars en ferme où je fais des choses comme personnalité. On va dégrir à la masse, j'en fous la banlieue, l'islam, les noirs, les arabes, la mystère, les femmes. Pour accepter d'être français, je dois changer de personnalité. Je pars en ferme où je fais des choses comme personnalité. On va dégrir à la masse, j'en fous la banlieue, l'islam, les noirs, les arabes, la mystère, les femmes. Pour accepter d'être français, je dois changer de personnalité. Je pars en ferme où je fais des choses comme personnalité. On va dégrir à la masse, j'en fous la banlieue, l'islam, les noirs, les arabes, la mystère, les femmes. Je dois changer de personnalité. Je pars en chemin vers où je fais des choses comme personnalité. Pour m'intégrer à la masse, je dois faire la banlieue, l'islam, les noirs, les arabes, les ministres, les femmes.
Mais la nationalité européenne, ça n'a pas
de valeur. Européenne ? Vous ne voulez plus de la nationalité française ? À mon avis, la nationalité européenne, ça n'existe pas. Je pense pas, en tout cas. Morissette, la nationalité européenne, ça n'existe pas.
Eh oui, Morissette, c'est le retour de Bad, on est là. Moi-même, Kidam, avec Yacine. Nouvelle émission aujourd'hui, on a un peu décalé parce que le 11 novembre, on s'est reposé. Donc, aujourd'hui, Yacine, on a une invitée du collectif Tzedek.
C'est ça.
Bonjour, comment vas-tu ?
Coucou, ça va très bien. Merci.
Et donc, effectivement, donc du coup, aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel épisode de Bad. On va prendre le temps de comprendre et d'écouter. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une voix qui interroge les manières d'articuler l'identité, la question de la mémoire, des luttes sociales et de l'engagement politique, avec une membre du collectif juif décolonial Tzedek, et on va essayer d'explorer ensemble ce que ça signifie en fait de militer dans le cadre d'un collectif entre guillemets religieux, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, comment on peut penser à partir de cette perspective, de ces enjeux, de ces tensions aussi qu'il peut y avoir, et de la manière dont vous faites dialoguer cela avec les débats actuels. Je vais commencer direct avec la première question. Déjà, comment tu définirais le projet politique de Tzedek et les valeurs du collectif ?
Et que veut dire Tzedek ?
Alors, du coup, Tzedek, ça veut dire justice en hébreu. Et du coup, en fait, le collectif, il s'est formé en 2023. Donc, au départ, c'est des personnes qui sont rencontrées à une commémoration de l'assassinat d'un militant antiraciste, Clément Méric. Et du coup, c'était des personnes qui étaient issues du mouvement social, des luttes antiracistes et décoloniales, et donc de différents terrains de lutte. Et il y avait aussi des gens de l'UJFP, donc c'est l'Union juive pour la paix, et c'est un peu la grande sœur de Tzedek, et c'est une organisation qui est un peu importante dans le paysage une politique du soutien à la Palestine et de la décolonisation de la Palestine. Et donc, ça fait une trentaine d'années qu'ils militent, qu'ils soutiennent la Palestine. Notre objectif à Tzedek, en fait, c'est de porter donc une voix juive décoloniale, mais aussi de lutter contre le racisme en Israël et en Palestine. Et en même temps, on met au cœur de notre engagement notre judaïsme. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu différent de l'UJFP, parce que du coup, pour nous, le volet communautaire, culturel et religieux, il est vraiment important. Et du coup, nous, on pense on se pense comme un espace communautaire, mais qui est en fait contre-hégémonique par rapport au sionisme, et aussi un espace avec des contre-pratiques émancipatrices par rapport au sionisme. Et donc, c'est pour ça que le volet communautaire, il est important. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est donner aux Juifs qui le souhaitent un espace pour qu'en fait, ils puissent vivre leur judaïsme, qu'il soit culturel, religieux ou tout simplement leur identité, sans ou en dehors du diktat sioniste. Et aussi dans un contexte où il y a un tournant à l'extrême droite et un tournant un peu raciste dans une grande partie de la communauté juive française. Et donc, en gros, bah voilà, on est un espace de contre-pratique, de contre-discours. Et aussi, bah, on est un collectif du coup en non-mixité. Et on veut accueillir donc, des juifs avec des trajectoires, des histoires différentes. Et aussi, on veut, on se demande pourquoi les juifs, en fait, ils devraient porter allégeance à l'État d'Israël pour exister dans leur judaïsme. Pourquoi aussi on peut, on fait sens aujourd'hui d'exister en tant que juif sans rentrer dans cet amalgame entre juif et sionisme, et aussi comment on fait exister une pratique juive ou même juste une socialisation juive en dehors du sionisme. Et du coup, en fait, nous, on fait ça parce que on galère en fait à avoir une place dans les espaces juifs un peu mainstream et qui soient officiels ou légitimes, tout simplement les synagogues, les centres d'études, parce que on nous considère de facto en gros comme des antisémites. Donc il y a un peu un fossé, et donc en même temps nous on n'a pas forcément envie d'y aller, parce que du coup ça signifie aussi qu'on se tait, qu'on parle pas et qu'on tolère un peu, cette harmonie un peu grinçante qui se fait un peu sur le dos des Palestiniens, de leur altérisation, voire du fait qu'ils sont tués.
Réussir à déclarer des juifs antisémites, c'est un concept qui me fait hurler de rire, quoi, déjà. Enfin,
ouais, c'est clair.
C'est déjà
j'arrive
fou, quoi.
Pas à percuter non
ça,
plus.
Ça veut dire que t'as tellement pas envie d'entendre un discours différent du tien que tu vas dire que dans ta propre communauté, il y aurait des antisémites. Enfin, c'est assez fou, quoi.
C'est un point que j'arrive pas non plus à expliquer. C'est assez dingue. Et tu parlais de la question de la lutte contre le racisme en France et en Palestine, Israël. Et justement, j'ai envie de te demander comment vous articulez au sein du collectif votre identité juive et l'engagement antiraciste.
C'est vrai que ça peut paraître paradoxal en fait.
Non. Quand je pose la question, c'est pas. Enfin, moi, ça me paraît pas du tout paradoxal. Mais juste, comment tu l'expliquerais en fait à des personnes qui connaissent pas ces histoires-là, par exemple.
Je voulais dire paradoxal par rapport au fait de dire à des juifs qui sont anti-sémites. Mais finalement, c'est pas. Enfin, ça s'explique.
D'accord.
Mais en tout
Vas-y.
Cas, on est aussi.
On écoute.
C'est parce qu'on essaye aussi de nous délégitimer par rapport à ce qu'on défend politiquement. Et donc, en fait, on nous dit qu'on est des faux juifs, qu'on est antisémites, mais en réalité, c'est parce que politiquement, les gens n'aiment pas ce qu'on porte. Parce que peut-être que ça dérange aussi un petit peu. Ce qui se passe actuellement. Par rapport à l'antiracisme, nous on défend un antiracisme depuis notre subjectivité juive, c'est un peu l'intérêt aussi du collectif. Et donc cette subjectivité, qu'elle soit culturelle, identitaire, religieuse. Et on s'inscrit dans une lecture du racisme qui est systémique et institutionnel. Donc ça veut dire qu'on pense qu'en fait en France il y a un racisme institutionnel de l'État dans les institutions, et donc ça exclut et infériorise certains groupes qui sont définis en termes ethniques et raciaux. Et en fait on pense que il y a des discriminations systémiques, donc qui sont le fait, enfin qui relèvent d'un système et non pas de responsabilité de chacun. Donc toi t'es raciste, toi t'es pas raciste, non, c'est un peu dans le système,
c'est pas un truc individuel, quoi.
Voilà. Donc et du coup on soutient le mouvement antiraciste, que ce soit le mouvement qui soutient les exilés, la lutte des sans-papiers, l'antiracisme noir, les combats contre l'islamophobie et aussi les organisations antiracistes qui défendent une lecture systémique et décoloniale.
Après, ce que je trouve intéressant chez Tzedek, c'est justement qu'il y ait cet angle communautaire et religieux, parce que des extrémistes pourraient dire très facilement « vous comprenez pas parce que vous êtes des laïcars ». Et quand vous n'êtes pas croyant, vous êtes pour le vivre ensemble, etc. Ou tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, c'est en face, t'as aussi des gens religieux et qui vont te dire, tout ton discours basé soi-disant sur une compréhension de la religion, il est faux, et nous on a une autre lecture de la religion, et en fait justement notre religion, comme aussi le christianisme et l'islam, c'est basé sur le vivre ensemble, le respect des autres, l'entraide entre les communautés, et pas détruire son prochain. Donc le juif extrémiste, sioniste, qui te porte ce discours face à toi qui est aussi religieuse et qui dit non, tu te trompes complètement, tu lis à l'envers, c'est ça qui est super intéressant, et on peut pas te reprocher d'être laïcard et de pas comprendre, parce que bah, toi aussi t'as une lecture religieuse du sujet, quoi.
Bah, complètement, en fait, c'est qu'on a le droit de politiser notre judaïsme et en même temps le vivre. Et mais c'est aussi pour ça que Tzedek, en fait, c'est aussi un espace un peu de refuge, quoi. Mmh. Enfin, en gros, c'est un peu comment vivre son judaïsme tout en faisant aucune concession sur le projet colonial sionisme, l'apartheid, et puis l'extermination enfin, par l'État d'Israël des Palestiniens. Et voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment être juif sans prêter un peu allégeance à un agenda réactionnaire. Mmh. Et du coup, en fait, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de détricoter un peu ben, l'affect sioniste. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, essayer de dire, ben voilà, en fait, on peut vivre ça. Enfin, on peut vivre le judaïsme sans rentrer dans le sionisme. Et ouais, on essaie du coup de montrer que c'est artificiel, que ça pourrait être autrement, et qu'on peut investir politiquement notre appartenance culturelle, identitaire, religieuse.
Du coup, est-ce qu'on peut, pour ceux qui nous écoutent, définir le sionisme bah, comme le définit un sioniste, quoi?
Eh ben, du coup, donc en fait, le sionisme, bah en fait, c'est un mouvement. Bah en fait, c'est une théorie. Enfin, c'est un mouvement et en même temps, c'est une théorie politique nationaliste. Et du coup, elle est née enfin, au 19e siècle, ouais, mais elle a aussi des racines plus anciennes dans la pensée protestante. Et c'est l'idée qu'il y a une unité du peuple juif. Et donc, cette unité du peuple juif, elle justifie un peu la construction d'un État-nation. Donc, en gros, y a une idée qu'un juif qui habite au fin fond de l'Ukraine, il appartient au même peuple qu'un juif qui habiterait au fin fond du Yémen, et qu'ils ont la même culture, enfin ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue, mais ils ont la même religion, mais du coup ça ne justifie pas le fait qu'ils fassent partie d'un même peuple. Et en fait c'est l'idée aussi qu'il y a un pays refuge, donc à un moment où effectivement il y avait un antisémitisme européen très important, c'est l'idée de créer un État susceptible de protéger la population juive. Et donc ça a été promu et théorisé par exemple par Theodor Herzl. Et il voulait donc créer un foyer national juif en Palestine comme une solution à la question juive. Et donc ça, c'était à une époque aussi où il y avait le printemps des nations. Donc en gros, on crée des états-nations où un peuple égale un territoire égale une nation. Et, mais en fait, pour construire un projet national, déjà, il faut définir bon, ben, c'est quoi être israélien. Ouais. Et donc être israélien, finalement, ça va être une sorte d'équation entre l'appartenance religieuse et l'appartenance au peuple national. Mais aussi, pour construire l'État, il faut construire un imaginaire national, donc il faut une langue, donc on va réinstaurer l'hébreu. Et après, en gros, il va y avoir même une société qui s'appelle la Société des Amants de Sion, et ils vont commencer à investir des terres en Palestine, parce que pour faire un État, il faut aussi des terres. Et donc, après, on va solliciter la diaspora juive pour aussi faire venir de la population, donc faire venir des investissements et donc commencer à coloniser, en gros. Et donc, en fait, au début, il y avait des gens qui disaient que les colons qui étaient arrivés donc, en Israël-Palestine, ils disaient une terre sans peuple pour un peuple sans terre, donc pour les juifs qui n'avaient pas de terre. Sauf qu'en fait, à l'époque, ils étaient hyper conscients qu'il y avait des gens sur ce territoire, mais c'est que ça les dérangeait pas trop, finalement, de s'approprier ce territoire. Et donc, par exemple, ils se sont appuyés aussi sur le fait de développer une agriculture. C'était les oranges de Jaffa. Et donc, ils sont passés par l'agriculture, enfin par une colonisation un peu agricole. Ils s'approprient des terres, ouais, ils les exploitent et tout ça. Et tout ça, en fait, ça a fait... bon, je déroule un peu l'histoire, parce que c'est un peu long à comprendre ce que c'est le sionisme. Mais du coup, Après, il y a eu les accords de Balfour, donc en 1917, où le Royaume-Uni s'engage à favoriser l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Ensuite, il y a le fait qu'il y avait un intérêt un petit peu double, c'est-à-dire à la fois colonial, mais aussi trouver un endroit pour les juifs et donc régler la question juive. Et en fait, pour mettre en place tout ça, il va falloir aussi faire venir des populations juives dans l'État, puisque à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de juifs présents. Et donc, pour ça, on va créer une agence d'émigration intensive pour qu'il y ait des juifs, colons qui viennent s'installer. Et donc, il va y avoir une politique importante d'immigration. Voilà. Et après, donc il y a un plan de partage en 1947 qui octroie la majorité des terres donc à la minorité juive qui est validée par l'ONU. Puis après, il va y avoir la Nakba.
Ouais, enfin, 47 déjà, c'est dans le contexte de sortie de la guerre et de la Shoah. Et malheureusement, ça a été, c'était pas la meilleure des décisions. Et c'est ça un peu qui a mis, qui a aggravé la situation, qui a mis un peu le feu aux poudres. Puis ensuite, ouais, la Nakba, ensuite, ouais.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait...
On peut mettre ça sur le dos d'une politique israélienne de colonisation, mais à la base, le monde entier s'est mis d'accord pour ça. Sortie de la guerre.
Ouais, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est marrant que tu me parles de ça, parce que ce qui est intéressant aussi à ce moment-là de l'histoire, c'est qu'il y a eu un refus quand même des populations... Il y a eu tout un tas de grèves, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est dans les années 30, je dirais 1936-1938, où il y a eu une grève des travailleurs et des travailleuses sur place. Et on l'oublie aussi des fois, mais l'impérialisme anglais, enfin le colonialisme britannique, a aussi participé à amener en fait, à toute cette problématique, même si... Je sais qu'il y a eu à un moment donné le mouvement sioniste qui s'est battu contre les Anglais. Il y avait eu tout un tas d'attentats.
La Palestine était colonisée par le Commonwealth, donc les Anglais.
Ouais, c'est ça. Et il me semble c'était un protectorat.
Ouais, ça c'est le mot poli, mais bon.
Oui, ouais, ouais. Et puis c'est la même chose de toute façon.
Moi, j'ai entendu un discours comme quoi c'était les Juifs ont libéré la Palestine des Anglais.
Oui, j'ai déjà entendu aussi ce discours. Ouais.
Bon, ouais.
Mais
un peu
ça,
facile.
En fait, il y en a, ils pensent que c'était un projet à la fois messianique, voire il y en a qui pensent que c'est une manière de décoloniser les Juifs, de sortir de la modernité occidentale autour d'un projet de retour à une terre. Donc, et c'est comme ça qu'ils le justifient, en fait, sauf que cette justification, elle est... rendu naturel pour justifier un état-nation, alors que quel autre état-nation se pense basé sur la religion ? Enfin, en tout cas, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui défendent forcément l'adéquation entre un état national et une religion.
Ouais, c'est clair. Je vous propose de petite pause musique.
Vas-y.
Et puis on revient.
L'atrocité de la mort fait bouger les choses, car désormais ils seront logés. And yo, it's hell on earth, who's next are gonna be first? The project's frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, it's right in front of your eye. And yo, it's hell on earth, who's next are gonna be first? The project's frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. Yo, the saga begins. Begin war, I'll draw first blood, be the first to set it off. My cause, tap all jaws, lay down laws. We take it with jaws, we do jokes, rust the doors. Hit kind of D's, trying to make breeze a toss. In full force, some team will go at your main source. My nine Taurus, hit bosses and take hostages. Your whole setup, from the ground up, we lock. Blood floods your optics, switch to kill instinct. Pops, no, it was the topic. 9 pound, we rocked it. 96 strike back with more hot shit. Illuminate my team with glow light. Radiation with no time for patient or complication. Let's get it done right. My click airtight. Trapped in the never ending fight.
blue stripes and lose life. Jail niggas sending kites to the street over some beef that wasn't fully cooked. Finish them off, well done me. Then said 22 slug the head. Travel all the way down to LA.
And yo, it's hell on earth. Who's next are gonna be first? The project's frontline and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, it's right in front of your eye.
We rep the QBC. Rep yours is all love, Millie stacked down, heavily guarded by hollow tips, slugged, then crack down. The wannabe thugs adapt to get down and bow down. Slow the f up, see how I'm found now? Articulate, hitting body parts to start shifting. Never hesitate, it's the rap game unlimited. Sign my roster, we can do this forever infinite. Then reminisce 20 years later how we was getting it. Either with me, go against the grain, you better hit me. Legging me, you're robbing me, better body me, cause it's a small world and talking like bitches. Singing like snitches, pointing you out in pitches. Cause she rep the QBC faithfully. Play you hating me, all that bullshit is just making me more the better. The concentrator getting cheddar. Your shorty set you up, you better deader. I told you, shape and mold you, sun you, then I hold you. Like a pimp, my control you, double edge, blow you, handle BI like I'm supposed to. The click is coastal, international, you local. Bacardi mix, physically fixed. Hit you with that'll leave a loose, it's stiff, properly fixed. Son, I solved them, pulled them in my world, then involved them in chaos. Walk the beat like around the wake cops, the average pit stop. QB City guard, fall the part three, Gotti Gambino, and Todd Nitty. Scarface, rest in peace.
Hell on earth, who's next are gonna be first? The project's frontline, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, hey yo, it's right in front of your eyes.
Ok, ok, on est de retour. Donc, toujours en place avec Yacine et Marie du collectif Tzedek. Donc bon, on a fait un peu d'histoire sur notamment la création de l'État d'Israël et le concept sioniste.
Ouais.
Et je te laisse enchaîner, Yacine.
Et bah justement, par rapport à tout ça, et en plus, le collectif Tzedek s'appelle le collectif Tzedek juif décolonial. Pour toi, qu'est-ce que ça recouvre l'expression décoloniale appliquée à une identité juive? Alors je conçois totalement qu'il y a peut-être autant d'identités juives que de personnes juives, mais comment toi tu le vois, ce côté-là décolonial appliqué à l'identité juive?
En fait, la colonisation, déjà normalement c'est un crime contre l'humanité, donc c'est défini par le statut de la Cour pénale internationale, et donc ça implique qu'il y a une violence systématique et permanente contre une population civile qui est colonisée. Donc nous, déjà, on s'oppose à ça, et on s'oppose en plus à ce que ça soit fait en notre nom. Donc c'est ça un petit peu l'articulation entre notre identité juive et le projet colonial d'Israël, qui s'est notamment matérialisé par le fait qu'ils implantent donc des colonies en Cisjordanie, et qu'il y a des personnes du coup qui se sont fait dégager de leur maison par des colons. Ouais. Et voilà. Et donc pour nous, en fait, le chemin le plus court pour que les Palestiniens que leur territoire soit décolonisé, c'est d'en finir avec cet apartheid, d'en finir avec la colonisation de leur territoire. Et voilà, et on sait que l'armée israélienne elle a une grande place là-dedans, donc en fait on est opposé à leur projet sioniste qui est un projet colonial qui se manifeste comme tel. Voilà.
C'est important de le dire que au sein même de la communauté juive et même des habitants d'Israël, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Parce qu'il y en a certains qui malheureusement voient tout blanc, tout noir et pensent que Israël, grand méchant loup, mais il faut toujours séparer le peuple du gouvernement. C'est comme il y a un anti-américanisme. Moi, j'ai des potes à New York. Donc on peut détester Trump et avoir des amis américains, et on peut détester Netanyahou et tout ce qui se passe et avoir des amis qui habitent à Tel Aviv ou voilà.
Ouais, clairement. Donc, après c'est un sujet complexe par rapport à l'histoire de la colonisation, parce que pour l'avoir pas mal étudié pour ce qui est de la colonisation en Afrique du Nord, enfin que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, effectivement en fait le colon français en Algérie par exemple, il a pu être contre la politique française de colonisation, mais tout en profitant parfois des privilèges qu'amène cette colonisation. Et en fait moi quand je lis des choses par rapport à cette histoire là, je me dis mais ok mec, t'as compris. Il se trouve même que t'es de gauche, mais qu'est-ce que tu fais en Algérie alors? C'est ça je caricature un tout petit peu, tu vois, mais c'est...
Ouais,
c'est...
Après, il y a aussi, je pense qu'il faut prendre en compte la durée des histoires.
C'est ça en fait,
tu vois, il y a une différence entre celui qui émigre quand il a 30 ans et qui va se dire de gauche et pas d'accord, mais oui, mais t'es venu quand t'avais 30 ans, et celui qui est né sur place.
Ah ouais, bien sûr.
Et qui, entre guillemets, n'a plus aucune racine sur un autre état. Donc
mais justement, si lui s'en rend compte, ouais. Que ça soit aux États-Unis ou en Israël, pour prendre ces deux exemples-là, si tu vas jusqu'au bout de la démarche, en fait, tu dois militer H24, quoi. Parce que
ouais, et c'est pareil. Rien. Hey, nous, on est en métropole, on est en France. Pourquoi on n'est pas tous en Kanaki en train de dire c'est pas normal? Pourquoi on n'est pas tous en Guadeloupe
on
en train de dire c'est pas normal?
Enfin, pour
on peut se faire l'autocritique de nous-mêmes aussi, tu vois.
Mais ouais, non, totalement, t'as raison. Non, mais de ouf. C'est une certitude. Après, quand t'es dans un pays comme la France, ex-puissance coloniale, et que tu es issu des pays colonisés, c'est effectivement pas la même chose. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est une certitude que y a une complexité en fait, par rapport à la question coloniale sur les populations descendantes de colonisateurs. Ça, c'est sûr.
Entre guillemets, c'est toujours bien d'avoir un ennemi à l'intérieur. Hein? Un ami à l'intérieur, mais du coup, ennemi intérieur.
Ah, ça, je sais pas. J'ai pas de position arrêtée là-dessus. Mais en tout cas, ouais, c'est.
Non, mais je dis que c'est important parce que, notamment, sur le. Même des jeunes qui nous écoutent ou des gens pas assez informés, pas assez cultivés, parce que moi, le morceau que j'ai mis en début d'émission, mon morceau à moi qui s'appelle Combien sommes-nous, où c'était en réaction aux attaques de 2014, déjà,
ouais,
sur Gaza.
C'était l'été 2014.
Voilà. À un moment dans le morceau, je dis Palestiniens, levez-vous. Français, levez-vous. Israélien, levez-vous. Mmh. Et il y a un petit qui me dit « Pourquoi tu dis Israélien, levez-vous ?» Ben, je dis « Tout le monde n'est pas d'accord en Israël sur ce qui se passe. » Et le petit, pour lui, c'était les méchants Israéliens contre les pauvres Palestiniens. Je dis « Non. Heureusement, il y a une opposition à l'intérieur même d'Israël. Heureusement, ça existe. C'est pas celle qu'on entend le plus en France, malheureusement.
Ouais. »
Mais,
oui, en Israël, d'ailleurs.
Mais effectivement, oui, ça existe. Heureusement. Enfin, c'est la résistance.
Grave, après, dans la résistance, je pense comme dans toute la gauche en général, les gens ne sont pas forcément d'accord entre eux. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y en a qui vont jusqu'à une critique décoloniale et qui disent non, mais en fait, le problème de base, c'est que vous avez colonisé ces territoires. Alors qu'il y en a qui s'en arrêtent à une critique de l'État en disant voilà, notre État est d'extrême droite et il fait n'importe quoi. Mais du coup, voilà, il faut aller un petit peu jusqu'au bout aussi dans cette critique. Mais après, il y a une critique décoloniale en Israël. Mais je pense qu'elle est quand même en danger, réprimée.
Ouais.
Mais après, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'Algérie, aussi les Juifs d'Algérie eux-mêmes, ils ont été on leur a donné la nationalité française avec le décret de Crémieux. Et eux-mêmes, ensuite, ils se sont pensés vraiment... en tout cas, pour la plupart, par ceux qui étaient peut-être engagés dans le décolonialisme, etc., ils se sont pensés aussi comme pieds noirs, comme français, ouais. Comme européens. Ouais, et donc, en fait, on a aussi cette subjectivité-là dans le colonialisme en Algérie.
Bah justement, tu me devances un tout petit peu. Et justement, par rapport à Tzedek... j'imagine que c'est des questionnements que vous avez par rapport à l'Algérie par exemple. Quelle place vous accordez à la mémoire historique et justement à la question des diasporas, la question des migrations, des oppressions ou des résistances dans vos réflexions, et comment vous revendiqueriez aujourd'hui en France? Mais on va d'abord parler de la question de la mémoire historique.
Je pense qu'il y a deux endroits, en gros. Enfin, il y a la mémoire des Juifs du Maghreb, où en fait il y avait quand même des mondes où il y avait des juifs qui partageaient un espace de vie avec des barbares, avec des arabes, et du coup il y avait ces mondes là. Bon, alors ils avaient un statut spécial, donc ça s'appelle la dhimmi, donc ils n'avaient pas exactement les mêmes droits que les populations arabes qui dominaient à ce moment là mais quand même ils coexistaient, et donc il y avait une vie judéo-berbère, judéo-arabe, et par exemple il y avait des bijoux berbères sur lesquels il y avait des étoiles de David, voilà, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça a été vraiment effacé par l'entreprise coloniale. Et parce qu'on leur a donné donc, aux Juifs la nationalité française tôt par rapport aux populations locales musulmanes, et ben, ils ont été un peu séparés, ils se sont pensés différemment, ils se sont construits vraiment comme républicains au fur et à mesure des...
Ouais, l'homme nouveau un peu.
Voilà, l'homme nouveau. Et ils se sont pensés comme aussi très, très hexagonaux, quoi. Et en fait, du coup, cette mémoire-là, elle a été un peu effacée. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même, par exemple, au Maroc, bon, c'est un contexte un peu différent, pas mal d'entreprises mémorielles pour faire réapparaître la présence juive. Bon, en Tunisie, ils sont déjà un peu plus présents encore. Mais en Algérie, voilà, c'est douloureux. Et aussi parce qu'il y a certaines formes du nationalisme algérien qui n'ont pas du tout voulu, dans leur projet national aussi, mettre en valeur le fait qu'il y avait des juifs là. Bon. Et du coup, on aimerait bien aussi que cette mémoire, de la faire revivre, d'habiter un peu les ruines de ce monde et de montrer qu'il y avait cette coexistence judéo-arabe ou judéo-berbère à un moment donné, et qu'elle nous dit aussi que voilà, on n'est pas obligé de vivre divisé, de se détester, on n'est pas obligé d'être dans des formes d'exclusion et d'islamophobie aussi. Voilà. Et après, sur la mémoire, il y a la question épineuse de la mémoire de la Shoah, donc qui a affecté beaucoup de nos ancêtres. Et ça, en fait, évidemment, c'est un génocide complètement atroce. Mais ce qu'on dit par rapport à ça, c'est simplement que comme on s'inscrit dans une lecture du racisme systémique, où on considère que l'antisémitisme est un racisme parmi d'autres un peu à désexceptionnaliser. Ce qu'on dit juste, c'est il faut peut-être un peu aussi désexceptionnaliser ce génocide pour le penser en discussion avec d'autres génocides, d'autres massacres qui ont eu lieu pour des populations qui avaient d'autres identités, qui appartenaient à d'autres groupes, etc.
Ouais, dans l'histoire en général.
Voilà.
Okay. Oui, hashtag, c'est super hashtag les Indiens d'Amérique, hashtag l'esclavage noir.
C'est ça.
C'est des faits qui sont moins documentés et même plus contestés. Tu vois, t'as souvent un discours d'extrême droite en France où quand tu vas commencer à parler de l'esclavage des Noirs, on va te dire « Ah, mais tu savais qu'il y a des Noirs qui mettaient d'autres Noirs en esclavage ?» Mais de quoi tu me parles, en fait ?
Ouais, pour minimiser un peu.
Ouais, pour minimiser, ah, pour détourner le truc. Et puis, sur l'histoire des États-Unis aussi, c'est pareil, quoi. Il y a très peu d'Indiens aujourd'hui qui restent sur le sol des États-Unis. Ouais.
Ils sont dans les réserves.
Voilà, il y a eu en Asie les Khmers rouges, c'était énorme aussi. Même le
génocide des Arméniens aussi.
Les Arméniens, même Staline a tué beaucoup de monde. Hein.
C'est sûr.
A affamé beaucoup de monde. Donc, après, malheureusement, c'est une mauvaise habitude de l'humanité.
Oui, et puis il y a aussi une mauvaise habitude française, c'est que je trouve que le travail sur la mémoire, il n'est pas assez investi. Par exemple, tu dis sur l'esclavage, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont fait des politiques culturelles de mémoire abouties sur ce sujet où maintenant les populations qui sont potentiellement descendantes d'esclaves, elles se sentent reconnues dans leur mémoire. Alors qu'en France, il y a quand même eu des ports aussi négriers, Bordeaux, Nantes, et autour de ça...
Le Havre.
Le Havre, enfin après je sais pas, je viens pas de là-bas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un travail mémoriel très important.
Pas assez en tout cas.
Bah non, bah à Nantes.
À Nantes il y a un musée, ouais.
J'ai vu ça, ouais. Mais bon après c'est pareil, enfin tu devrais pas aller jusqu'à Nantes pour voir que on en parle sur place.
Non mais ça doit être des politiques étatiques en fait. Et ouais. Contrairement au monde anglo-saxon, il est pas parfait, mais en France il y a quand même un truc où il y a une volonté de même pas reconnaître l'histoire, en fait. De ne même pas dire qu'effectivement, la colonisation et l'esclavage, qu'il y a une responsabilité étatique française au plus haut niveau. C'était juste un événement, en fait. Bah, tu vois, comme la guerre d'Algérie, tu vois, ouais, c'est un événement. C'est juste un truc...
Voilà.
Très français.
Oui, bah, attends, c'était pas une guerre d'Algérie, c'était des événements.
Ouais, voilà, c'est
jusqu'en
ça.
98, je crois. C'est en 98,
ouais,
ils ont commencé à parler
super
de...
Super tard, hein, ouais, 99. Jusqu'à la fin des années 90, de toute façon.
Ouais.
Mais pour revenir juste rapidement à la question du Maghreb et de la question de l'identité juive, il y a quand même eu des choses qui ont été faites depuis, je dirais, au moins le début des années 2010, avec des documentaires qui parlent de l'identité juive de Horav. Je ne me souviens plus du nom du documentaire qui était passé sur Arte. Si loin, si proche, un truc comme ça.
Mais c'est vrai que, tu vois, pour bien se documenter sur plein de crimes qui ont eu lieu dans l'histoire, il faut se mettre sur Arte vers 1h du matin.
Ouais, il y a plusieurs trucs. Alors, en tout cas, il y avait un long, d'au moins 4 ou 5 épisodes sur l'histoire un peu judéo-arabe de plusieurs, j'allais dire géographiquement, de plusieurs lieux, que ce soit la péninsule arabique, parce qu'on l'oublie, ceux qui connaissent ce sujet le savent, mais qu'il y avait une communauté juive importante. Pour le Maghreb aussi. Et pour le Maghreb, tout à l'heure, tu parlais de la Shoah. Moi, je trouve que, en tant qu'enseignant d'histoire, il y a des points comme ça d'histoire que je trouvais super intéressants à enseigner, mais bon, qui ne font pas partie du programme. C'est notamment au Maroc, lorsque le roi Mohamed V est là et qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, et que Vichy vient au Maghreb pour appliquer sa politique, sa solution finale. Et le roi du Maroc dit, en fait, eux, ils sont pas juifs, en fait, c'est juste des sujets du roi, comme d'autres.
Ouais.
Alors, c'est un truc royaliste, c'est particulier. Nous, en France, on a du mal à comprendre ça.
Protéger.
Mais ce qu'il voulait dire par là, en fait, c'est que vous n'allez pas y toucher, en fait.
Ouais, ouais.
Et ça fait partie des trucs de l'histoire, et sur la question de l'identité juive et sur son lien avec l'histoire, j'allais dire politique, du monde arabo-musulman. C'est des choses qui mériteraient d'être enseignées, mériteraient d'être connues. Mais tu poses la question, tu t'en parles aux gens, très peu connaissent ça. Pareil pour vous connaissez parce que vous vous intéressez au sujet, mais pour la Grande Mosquée de Paris, il me semble que c'est, elle émettait des espèces de faux certificats, je crois.
Oui, déclarait des juifs, disait que c'était des musulmans, c'est ça? Pour protéger des juifs, il disait que c'était
ça,
des musulmans.
Exactement, ouais. Exactement, en fait, pour essayer de les sauver de la politique de Vichy, enfin la politique collaborationniste de la France. Mais voilà, j'ai fait une petite digression, mais je trouve qu'il y a des points comme ça historiques qui sont super intéressants et que les militants antiracistes connaissent très souvent, mais qui ne sont pas forcément connus par la majorité de la population en France. Je vais te poser une autre question par rapport à ça. Ouais.
Parce que juste par rapport à ça aussi, ce que je trouve dommage, c'est que justement le Royaume du Maroc aujourd'hui...
Oui, aujourd'hui c'est autre chose. Ouais.
Bon, la fin, ouais.
On va pas en parler. Non, je rigole,
parce que je crois qu'il y a un conseiller du roi qui est juif, ou qui occupe une...
Ouais, André Azoulay.
Voilà, ouais. Mais après, du coup, c'est au service d'une normalisation avec Israël. Donc,
ouais.
C'est vrai que c'est dommage que justement cette histoire, il ne la réinvestisse pas différemment.
Ouais, ah ben totalement. Après, ça, c'est justement sur ça, mais ça serait super long à expliquer. Mais il y a une complète différence d'idéologie politique entre Mohamed V et le fils Hassan II qui prend le pouvoir juste après. C'est-à-dire que Mohamed V était vraiment dans une vision. J'allais dire presque, pas altermondialiste, c'est pas le mot, mais en tout cas, il y avait vraiment un truc de lien entre les peuples, etc. Là où Hassan II a pris la direction de... a pris une autre direction, on va dire. Mais justement, sur ces questions-là de racisme, d'antisémitisme, etc., tu as dit un truc super important sur... le mot, il est super compliqué à prononcer, la désexceptionnalisation. C'est
ouais.
Ça.
Ouais.
Je crois que c'est un des mots les plus longs avec anticonstitutionnel en fait. Je ne connaissais pas celui-là. Je le mettrais au Scrabble. Je voulais te poser la question justement. Comment vous analysez-vous le climat enfin avec CEDEC, comment toi tu l'analyses, le climat politique actuel autour justement en France des questions de racisme de manière générale et d'antisémitisme et d'islamophobie plus précisément. Que ce soit enfin, l'antisémitisme ou le philosémitisme, l'islamophobie de manière générale, les racismes en général aussi.
Nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que l'islamophobie, c'est un peu la forme dominante du racisme en France en ce moment. Et ça relève un peu d'une forme de racisme aussi conspiratoire. Et donc, il rapproche aussi ça avec comment, dans les siècles passés, on pensait que l'antisémitisme, c'était aussi le fruit d'un... Enfin, l'antisémitisme passait par l'idée d'un complot juif.
Ouais, judéo-bolchevique.
Voilà, le
islamo-gauchiste aujourd'hui.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ce glissement-là. Et donc, voilà, c'est tous les médias qui disent qu'il y a une islamisation de la société, qu'il y a un entrisme des réseaux fréristes, alors qu'à côté, pour leurs enjeux stratégiques, ils travaillent aussi avec l'Arabie Saoudite, où c'est des salafistes qui sont plus conservateurs. Enfin, donc, en fait, il y a un peu de poids, de mesure aussi dans la lutte contre l'islamisme.
Pourtant, c'est bien, bolchevique, non?
Ah, moi, je suis pas contre, hein, perso.
Peut-être que ça nous définit encore. Ouais. Mais après, on sait qu'il y a quand même une montée de l'antisémitisme, mais aussi d'autres formes de racisme. Et donc ça, on le nie pas. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que l'antisémitisme aujourd'hui, il est instrumentalisé. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'il y a un problème déjà de définition. Donc franchement, ça vaut le détour. mais en gros, c'est parce que il y a l'IHRA, donc l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui donne une définition en fait de l'antisémitisme, et aussi qui est soutenue par le ministère israélien des Affaires stratégiques, donc qui appuie pour le faire passer, dans différents pays. Et l'antisémitisme, il est décrit avec une définition qui a priori pose pas de problème, donc comme une certaine perception des juifs qui peut s'exprimer par une haine à leur égard et par le biais de manifestations rhétoriques et physiques dirigées contre des individus juifs ou leurs biens et des institutions communautaires ou des lieux de culte. Donc, jusqu'ici tout va bien, sauf que le problème c'est qu'en fait ils prennent des exemples pour illustrer cette définition et que dans les exemples qu'ils prennent pour expliquer cette définition... la plupart des exemples, en fait, ils sont relatifs à l'État d'Israël. Ouais. Et donc, en fait, dès lors, un de mes exemples, par exemple, c'est que l'antisémitisme, il peut se manifester par des attaques à l'encontre de l'État d'Israël lorsqu'il est perçu comme une collectivité juive. Même s'ils disent que, cependant, critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme. Mais, comme il y a un amalgame systématique entre antisionisme et antisémitisme, et parce qu'on associe systématiquement judaïsme et État d'Israël, en fait cet amalgame il va justifier la répression du mouvement pro-palestinien. Et donc c'est pour ça que par exemple ils ont annulé le colloque au Collège de France, c'est pour ça que quand il y a des militants qui gênent un concert de l'orchestre israélien à la Philharmonie, on dit que c'est de l'antisémitisme alors qu'en fait c'est juste de l'antisionisme. Ouais. Et en fait tout le cadrage médiatique après il va dire que chaque acte antisioniste, c'est un acte antisémite. Et donc, en même temps, en plus, ça plonge les communautés juives un peu dans la peur parce qu'elles se pensent aussi attaquées de partout. Quoi.
Ah ouais.
Donc voilà.
Mais tu penses que c'est juste le fait de se référer à cette définition ou c'est plus politique que... on met ce point de vue médiatique. Et puis, de toute façon, tu vois, il y a des gens, on les pointe du doigt en disant « Ah, mais si vous ne condamnez pas, ça veut dire que vous êtes antisémite. Ce que vous avez dit, c'est antisémite. Ce que vous faites, c'est antisémite. » Alors que, des fois, il faut faire trois fois le tour du truc pour trouver de l'antisémitisme. Tu vois, il faut vraiment y aller, quoi. Et donc, ce n'est pas juste se référer à cette définition. C'est surtout c'est un enjeu politique. Enfin, c'est qui maîtrise les médias et qui a intérêt à dire que je suis du côté d'Israël. Et on voit même maintenant, tu as l'extrême droite française qui soutient Israël et qui dit il faut défendre les Juifs. Alors qu'en fait, le seul lien, c'est une extrême droite de France qui soutient une extrême droite d'Israël.
Complètement. En fait, ça, c'est tellement perverti que du coup, c'était en novembre 2023, il y avait une manif où c'était la marche contre l'antisémitisme, donc c'était plutôt une marche. Et en fait, il y avait justement le Rassemblement National qui avait défilé, le gouvernement qui venait de faire la loi d'immigration, qui était une loi assez restrictive au niveau des droits des personnes migrantes. Et donc finalement, l'extrême droite, en fait, elle a un intérêt à s'ériger en philosémite. Donc philosémitisme, c'est l'amour des juifs. Mmh. Et nous, on trouve ça très bizarre, en fait. Donc au lieu que le juif, comme dans l'antisémitisme classique, on va dire au 19e siècle, il soit une altérité menaçante, dangereuse, en fait on le pose comme une altérité tolérée, ou encore mieux, une altérité modèle, un peu compatible avec les valeurs de la République, pour mieux dire que certaines autres minorités...
Ouais.
Voilà. Mmh. Donc ça, c'est un peu comme aussi quand on dit que les personnes asiatiques sont super travailleuses, exemplaires, alors que ça n'empêche pas.
Pour dire que les Noirs et les Arabes le sont pas, quoi.
Voilà, c'est ça.
Très bien.
Voilà. Donc.
Je connais un Asiatique qui fout rien. Donc ça existe.
Comme quoi. Ouais, c'est super pertinent, c'est super intéressant ce que tu disais. C'est vrai quoi, on a traversé là une époque en France, je me demande comment les historiens l'analyseront dans 50 ans, un siècle, parce que cette espèce de... Enfin, je le dis pas du tout de façon drôle, mais cette espèce de tournant politique qu'on a vu en France amène à une partie de la communauté juive, je pense pas que ce soit l'entièreté, mais il y a un article qui était sorti justement sur la communauté juive à Marseille, par le journal Le Monde, et qui parle du fait que une partie de la communauté juive se dirige vers un vote Front National aux prochaines élections. Enfin, j'imagine qu'il y en a peut-être déjà qui ont voté Front National aux européennes ou aux législatives. Comment tu le vois, comment tu l'analyses, toi? Là, c'est un peu une question à brûle pour point, mais...
En une minute, parce qu'il va falloir rendre mon témoin.
Rapidement.
En fait, je pense que le Rassemblement National, il utilise le philosémitisme, enfin, en tout cas, on pense à TSEDEC, aussi comme intérêt électoral. Hein.
Ouais.
Et puis après, il y a aussi les théories du nouvel antisémitisme qui affectent l'antisémitisme actuel exclusivement aux descendants des immigrations postcoloniales et, pour faire court, aux populations musulmanes. Et donc, en fait, le philosémitisme aussi, il est instrumentalisé pour un projet politique xénophobe. Et donc, on va dire que la communauté juive, elle va se sentir soutenue par le Rassemblement National, mais du coup, ça les fait rentrer dans une vision du monde xénophobe, donc anti-migration et islamophobe, où on pense qu'il y a un grand remplacement et puis qu'il y a un entrisme islamiste dans les institutions, quoi.
Mais c'est... Bon, on n'aurait pas le temps d'en parler, mais cette façon de penser, en fait, elle se fracasse face à la réalité, quoi. Et encore plus à Marseille. Comment on peut penser que... qu'il y a un entrisme des communautés musulmanes dans les institutions à Marseille? Ça se verrait. Bon, bref, on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous montrer votre analyse de ces sujets-là chez TSEDEC. Moi, j'aime beaucoup le blaze TSEDEC, j'avais oublié de le dire au début, mais ça me fait totalement penser au mot sadaqa en arabe, qui est justement le fait d'être généreux, le fait d'être solidaire.
Ça existe,
et
TSEDEC.
C'est
sadaqa. Ouais, c'est
une langue c'est des langues qui sont, j'allais dire, cousines, sont tellement liées que même ce mot-là, en fait, il est écrit presque de la même façon, et en hébreu et en arabe. Et c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était super pertinent d'avoir...
Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis... Et voilà, que la communauté juive n'hésite pas à soutenir TSEDEC, n'hésite pas à prendre la parole. C'est la même chose aussi pour d'autres communautés,
toutes les communautés
dont on parle et qui sont souvent attaquées. C'est vrai que tu as aussi des musulmans qui n'osent pas prendre la parole. Il faut que les gens qui veulent l'unification des peuples prennent la parole. Parce que la parole est trop prise par ceux qui veulent la division des peuples.
Voilà. Extrême droite.
Donc, peace, on se rejoint sur les réseaux People Unit et suivez TSEDEC sur les réseaux, il y a du contenu très intéressant et People Unit, on en reviendra plus tard là-dessus, il y a des choses qui arrivent. Paix, amour, unité et fight the power.
Bonne soirée tout le monde.
Bonne soirée.
Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.